Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Voix du Social. Nous nous situons actuellement dans les locaux de Courteline à Tournoire. Nous sommes étudiants en travail social à la Croix-Rouge. Et dans le cadre de notre formation, nous avons été 12 à être sélectionnés pour participer à une semaine découverte de la radio en partenariat avec Radio Béton et le collectif socio-artistique Citella. Au sommaire de cette émission, nous vous proposons un débat sur le tutoiement et le vouvoiement, suivi d'une rubrique qui se nomme « Harcèle-moi si tu peux ». Et pour commencer l'émission, on accueille les micro-trotteuses qui sont allées dans la rue à la rencontre des personnes.
Bonjour, c'est Manon.
Bonjour, c'est Aminata.
Bonjour, c'est Anne.
Bonjour, c'est Charlotte.
Bonjour, c'est Laura. Alors, nous sommes allés la première semaine de décembre à la rencontre des habitants de Tours et plus précisément sur le marché du Beffroi pour échanger avec eux sur la précarité à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous avons choisi ce sujet car il est d'actualité et en tant que futurs travailleurs sociaux, il nous semblait important au vu de l'évolution grandissante de la précarité. Maintenant, laissons la parole aux habitants.
Incroyable. Donc c'est le directeur de Gentiana Courteline et Fousia qui est médiatrice culturelle.
Bonjour. Enchantée.
Allez, c'est parti.
Et bah, ok, donc moi je suis le directeur de Gentiana, donc on est un centre social et socioculturel. Donc on intervient dans des quartiers, notamment quartier de l'Europe et Tourette et plus largement Tour Nord, pour proposer plein de choses en direction des habitants, notamment des animations de quartier. Donc de fait, la période de Noël, c'est une période qui est propice à d'organiser des événements. Là par exemple aujourd'hui, alors c'est plutôt en lien avec le Téléthon, hein, mais on a aussi des petites choses autour de Noël. Il y a une association qui offre des cadeaux un petit peu, voilà, des choses simples, mais dans un esprit un petit peu de solidarité et de Noël. Nous, par contre, au niveau de l'asso, on organise pas mal de choses. On fait venir deux calèches, une sur chaque quartier, et ça permet aux enfants, pendant une heure, de faire un tour de calèche avec une ambiance un peu sympa. On organise une journée à Gentiana où on propose un spectacle pour les tout-petits, où on fait chanter aussi. Il y a une chorale d'habitants qui se prépare et qui chante aussi à chaque fois à ce moment-là. On a des animations, des jeux, donc oui, effectivement, à Noël, on a une programmation un peu spécifique. Noël, c'est le côté famille-enfant, mais c'est aussi des personnes qui se retrouvent seules à cette période-là. On sait que c'est le moment où il y a le plus de taux de suicide de l'année. Donc on a aussi cette vigilance à proposer à des personnes qui sont plutôt isolées de se retrouver, de partager des choses.
Voilà. C'est super intéressant. Merci. Je voulais vous poser des questions relatives à Noël. Et là, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, les fêtes de fin d'année, c'est important ?
Pour moi, personnellement ?
Oui, personnellement.
Non. Pour moi, personnellement, non.
Ok, d'accord. Et du coup, vous n'avez pas de budget particulier du coup, alloué à ça par rapport aux fêtes de fin d'année ?
Ah si, j'ai... Vous me demandez, c'est important personnellement pour moi les fêtes de fin d'année. Je vous réponds que non, mais j'ai une famille, j'ai un budget.
D'accord.
J'ai un budget à louer, mais pour moi, c'est pas important. Voilà, c'est pas des choses. Que...
Okay.
C'est important pour la vie collective, c'est important pour la collectivité, oui, mais pour moi personnellement, vraiment, ça ne l'est pas. Je vais vous dire, ma priorité, c'est ce que je fais ici tous les ans sur marché à Noël, c'est d'offrir des cadeaux aux gamins. Ça, c'est ma priorité, oui. C'est offrir des cadeaux aux familles, c'est aussi ce que je fais, moi, toute l'année dans le quartier avec mon asso, c'est-à-dire de venir en aide aux gens qui sont en difficulté. Ça, c'est ma priorité, mais ce n'est pas une priorité. Si Noël doit être le symbole d'une espèce de lutte contre la précarité, la pauvreté, etc., j'en suis le premier avis. Voilà. Mais pour moi, c'est pas Noël, ça. C'est pas l'événement en particulier. Et même si, encore une fois, je le fais, parce que là, c'est la deuxième année, vous voyez. Voilà, on avait une trentaine de cadeaux à offrir ce matin, ils sont partis, il n'y en a plus. Donc, mais c'est inquiétant.
Question à vous poser, c'est dans le cadre de notre parcours formation radio. Quelle importance accordez-vous aux fêtes de fin d'année ?
Les fêtes de fin d'année, c'est un moment de solidarité. Après, il faut se rappeler que nous n'avons pas tous la même capacité à faire les fêtes de fin d'année ou les fêtes de Noël, selon comment on les appelle. Il y a beaucoup de gens dans les quartiers prioritaires qui voient leur budget de plus en plus diminuer avec le coût de la vie. Donc il s'agit aussi dans les quartiers d'avoir des opérations de solidarité pour unir les gens, un, sur le plan humain, et puis aussi permettre parfois à des enfants d'avoir au moins un cadeau de Noël sous le sapin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien ne pas l'oublier.
Si j'ai bien compris, vous êtes un élu du quartier, c'est ça ?
Oui, tout à fait, effectivement, je suis adjoint sur le secteur nord-ouest, donc qui comprend entre autres le quartier de l'Europe, qui est classé quartier prioritaire sur Tournord, puisque nous sommes actuellement au nord de la ville, et il y a un autre quartier prioritaire, les Tourettes, mais ça, c'est pas ma délégation, celle de mon collègue Thierry Lecomte, donc qui est du côté entre Sainte-Radegonde et Montconseil.
Et pourriez-vous nous dire qu'est-ce que l'État a mis en place pour ces personnes qui sont en précarité, s'il vous plaît ?
Alors l'État, c'est plutôt les collectivités locales. Oui. L'État accompagne également au titre notamment de la caisse d'allocation familiale et de certains dispositifs, notamment ce qu'on appelle la politique de la ville, qui est soutenue par l'État. Mais le premier pourvoyeur de fonds, ça reste quand même la collectivité. C'est les villes, les métropoles ou les communautés de communes quand on est en territoire rural. On accompagne les centres sociaux et les EVS, les espaces de vie sociaux, pour accompagner les gens, leur permettre d'avoir des dispositifs leur permettant de faire de l'inclusion sociale. Du lien ou des dispositifs de solidarité, comme notamment dans le cas du Téléthon, comme on peut le voir à côté de nous.
J'ai une petite question par rapport à l'actualité. À un moment, ils avaient proposé de supprimer la prime de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vaste sujet. Je trouve ça méprisant parce que c'est encore faire une économie sur le dos des gens pauvres. Mais bon, on n'est plus assez près avec certaines personnes qui sont à Paris. Bon, voilà. L'autre sujet, c'est que faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes isolées, et notamment dans les quartiers prioritaires, les fameux QPV. On a beaucoup de gens isolés, et en fait, tout le monde a le droit de fêter Noël. Hein. C'est pas parce que vous avez des enfants que vous avez plus le droit de fêter Noël que les autres. Hein. je veux dire, il y a plein de gens qui sont célibataires, ou il y a des gens qui sont malades et seuls, isolés, et des personnes en situation de handicap qui vivent seuls. Donc, si c'est pour dire à ces gens-là, non, vous n'avez pas le droit de fêter Noël, débrouillez-vous, sachant que c'est déjà des gens qui sont en précarité, qui ont du mal à accéder à l'emploi, ou qui sont sur des emplois précaires, tiers-temps, mi-temps, etc. Moi, je trouve que c'est, je veux dire avec mes mots, hein, je ne sais pas si vous le retiendrez, mais c'est un crachat supplémentaire pour les gens. Voilà.
Par rapport au budget, combien vous consacrez à peu près chaque année
ça dépend des années.
Pour Noël, oui. Je dirais 50 euros.
D'accord.
Okay. On a, dans la famille, c'est une réunion familiale, bien sûr, on a décidé depuis plusieurs années, au moins 20 ans, de faire des tirages au sort pour les cadeaux, c'est-à-dire que tous les adultes qui travaillent, font un seul cadeau à une seule personne. Ouais. Les enfants, ils sont gâtés plus, bien sûr, et ils n'ont pas de cadeau à faire.
D'accord. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Je vais juste vous demander votre prénom, s'il vous plaît.
Christine.
Merci bien.
Habitante du quartier.
Très bien, merci beaucoup.
Après, je dirais que financièrement, la situation est de plus en plus compliquée. Hein. Et qu'il faut que ça s'arrête.
On est bien d'accord avec vous.
On est dans l'escalade, là.
Oui. Merci à vous. Bonne journée.
Merci. Au revoir. Bonne journée. Bon courage.
Merci. Quelle importance vous accordez-vous personnellement aux fêtes de fin d'année ?
Fêtes de fin d'année, réunion de famille, familiale.
Non, mais le fait d'être ensemble, oui, de... de se trouver, de...
C'est tout. Être ensemble aussi, être ensemble à Noël, en famille, partager les choses simples aussi. Voilà.
C'est plutôt la famille. Après, pour le nouvel an, c'est plus les amis. Les amis, faire la fête ensemble, quoi.
D'accord. Et est-ce que vous, du coup, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, est-ce que vous allouez un budget spécifique à ces fêtes ou pas spécialement ?
Pas spécialement, non.
Non. Non, pas spécialement non plus.
Après, moi, ça dépend de ce que j'ai comme. Ce que je touche, en fait. Après, si je peux faire un grand truc, je fais un grand truc. Si je peux faire un petit truc, je fais un petit truc. Après, ça dépend.
Alors nous, il n'y a pas de budget, mais chacun ramène quelque chose. Chez nous, chacun, une entrée, un plat, quelqu'un s'occupe du dessert, chacun ramène. Voilà.
D'accord. Et est-ce que vous auriez une idée du budget moyen qu'un Français accorde pour ces fêtes de fin d'année ?
Je sais pas du tout.
Avec les cadeaux et les décorations, je dirais plutôt en moyenne, quoi, je dirais 400 euros.
Moi, j'ai pas vraiment de budget, je sais pas. Hein, ça dépend combien on est, combien on fait de cadeaux. Que, voilà, on sait pas.
Je vais pas mon tour, ça va.
Alors du coup, oui, le budget, vous étiez pas loin, le budget moyen d'un Français, c'est 491 euros par personne.
Ah bah, pas loin. Si c'était le juste prix, je serais pas... Ouais. Je serais la plus proche.
Et est-ce que vous trouvez ça beaucoup, du coup vous...
Bah, par rapport au prix actuel, c'est pas forcément hyper cher non plus. Parce que c'est avec les prix qu'il y a, notamment pour les cadeaux et bah, la nourriture, ça revient quand même assez cher.
Bah, merci d'avoir répondu à mes questions.
Vous venez d'entendre les habitants qui fréquentent le marché du Beffroi à Tournord. Et on accueille maintenant Marion Léotoin.
Bonjour Marion Léotoin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste depuis 20 ans.
Oui,
rédactrice en chef du média social,
oui.
Et secrétaire du collectif socio-artistique Cité-là.
Oui.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus et peut-être nous parler du lien qu'il y a entre les deux ?
Le lien entre mon métier et mon rôle au sein du collectif. En fait, donc moi, depuis effectivement plus de 20 ans, je crois même, je travaille comme journaliste sur la question du travail social et de l'action sociale au sens large. Donc je suis vraiment une journaliste spécialisée. Et en fait, je m'intéresse à toutes les problématiques qui ont lien avec les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, que ce soit des personnes handicapées, des personnes en situation de précarité, là, comme on évoquait à l'instant, des enfants qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, etc. Et ce qui est intéressant avec le collectif Cité-là, c'est justement le croisement entre... Parce que les travailleurs sociaux accompagnent au quotidien. Vous, futurs travailleurs sociaux, c'est ce que vous ferez, d'accompagner avec les outils qui seront les vôtres que vous apprenez en formation. Cité-là, l'approche, c'est un petit plus, c'est-à-dire de pouvoir apporter de la médiation, notamment artistique, autour de l'écriture, autour de la musique. Et c'est aussi un accompagnement qui est important et qui vient aider les gens. Il n'y a pas que l'aide financière, il n'y a pas que l'écoute. Donc c'est ça le lien que je fais, moi. Voilà.
D'accord. Pour notre semaine Parcours Radio, avec notre groupe d'étudiants, nous avons choisi d'aborder le thème suivant, donc la précarité à l'approche des fêtes de fin d'année. Pourriez-vous me dire, Marion Léotoin, vous qui êtes journaliste depuis 20 ans dans le social, comment pensez-vous que les personnes en situation de précarité vivent cette période ?
Ouais, c'est un peu difficile pour moi de vous répondre vraiment, parce que moi, je ne suis pas dans leur situation, donc, et je ne suis même pas travailleur social. Donc là, ça me fait quand même deux difficultés pour la réponse. Donc, de manière très humble, parce que moi j'observe ça de loin quand même, je pense qu'en fait, la situation de précarité, elle est vécue toute l'année. Et c'est une problématique de toute l'année. Peut-être là, et on l'entendait un peu dans le sujet, ce qui est peut-être un peu plus difficile ou un peu plus prégnant, c'est que c'est un moment où il faut dépenser de l'argent, où on doit gâter les enfants, acheter des cadeaux, beaucoup manger, et que sans doute quand on a un tout petit budget, ça vient... rendre la chose encore plus aiguë, mais qui est une chose qui, à mon avis, est une problématique quotidienne. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un tel aussi, sans doute, environnement médiatique, notamment, que ça rajoute encore de la pression là-dessus. Mais je pense que la problématique de la précarité, elle n'est pas limitée à Noël. Donc je pense qu'effectivement, ça rajoute sans doute un niveau de difficulté.
Lors de notre micro-trottoir, nous sommes allés à la rencontre de personnes sur le marché du Beffroi, comme vous avez pu l'entendre. Pour leur demander l'importance qu'ils accordent aux fêtes de fin d'année. Le mot solidarité ressort plusieurs fois chez les personnes bénévoles du centre social Janciana. Qu'est-ce que vous observez sur les difficultés que rencontrent les personnes en situation de précarité pendant cette période de fête ?
Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit aussi, je crois. Il a été question des actions qui étaient mises en place. Il y a des actions d'aide peut-être matérielle, mais en fait il y a surtout beaucoup de choses qui sont mises en place par les acteurs sociaux autour de la lutte contre l'isolement, notamment à ces moments de l'année. Et je pense que c'est un peu comme la précarité financière, la problématique de l'isolement social, elle est toute l'année, mais à Noël c'est pire. Bah, j'imagine. Donc, nous, en tout cas, en tant que journalistes sur ce secteur-là, par exemple, pour la période de Noël, on va aller voir ce qui se met en place, par exemple, dans les structures ce que font les travailleurs sociaux pour créer des temps de solidarité et de partage autour de ces fêtes-là, notamment pour... mais ça peut être les personnes en situation de précarité, mais aussi les personnes tout à fait isolées pour d'autres raisons, notamment en lien avec le handicap ou l'âge. Hein, les personnes âgées sont très, très isolées à l'heure actuelle. Et du coup, c'est des temps aussi qui peuvent être des temps aussi symboliques mis en place pour que ce soit une fête pour tout le monde.
Merci. Selon une étude Cofidis, les Français dépensent en moyenne 491 euros pour les fêtes de fin d'année. Vous qui êtes rédactrice en chef du média social, que pensez-vous de ce chiffre ?
C'est une excellente question. Je n'ai absolument pas de réponse à apporter. J'ai écouté le sujet. J'ai l'impression que c'est beaucoup, mais c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre sur ce. J'ai pas vraiment en tête de barème chiffré ou de fourchette. Ça me paraît beaucoup pour un foyer justement en situation de précarité.
Mmh. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce que l'on voit dans les médias reflète la réalité de ce que vivent les personnes ?
Alors, je pense que Il y a plusieurs façons d'aborder la question des fêtes de Noël, en fait, comme il y a autant de médias aussi. Ouais. C'est-à-dire que vous allez avoir des sujets beaucoup axés sur la consommation à cette période de l'année, qui reflètent la réalité d'une partie des Français, je pense, qui vont beaucoup dépenser, beaucoup consommer. Après, il y a aussi des sujets sur, par exemple, justement, la question des personnes en situation de précarité. Mais il va y avoir une espèce de concentration de sujets sur ces personnes-là à Noël, alors qu'il va y en avoir peu le reste de l'année. Donc c'est un peu absurde aussi, mais ça reflète une partie de la réalité, mais encore une fois, qui n'est pas limitée à Noël. Bon, je pense qu'il y a quand même un léger décalage, sans doute, avec beaucoup de sujets sur la profusion et peut-être un petit peu moins sur les situations de précarité.
Bien, merci beaucoup Marion Léotoin.
Merci à vous.
Vous êtes dans l'émission Les Voix du Social sur Radio Béton et on vous laisse tout de suite dans l'ambiance des fêtes avec une chanson d'Ed Sheeran et Elton John. Et juste après, on se retrouve pour la suite de l'interview de Marion Léotoin sur le thème du tutoiement et du vouvoiement.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year.
c'est Lina et Laïssa. Vous êtes toujours sur Radio Béton pour Les Voix du Social. Alors, comment nous allons procéder ? Nous allons d'abord parler du tutoiement et du vouvoiement du coup, dans le travail social. Nous commencerons par faire un point historique, origine, grammaticale. Ensuite, nous allons recevoir du coup, Marion Léontoin, qui est journaliste pour le média social, que nous allons interviewer. Et nous finirons par un débat avec deux invités qui vont nous rejoindre, Aminata et Anne, qui sont aussi étudiantes dans le travail social à la Croix-Rouge. Nous commençons du coup avec le point histoire. Alors, il faut savoir qu'à l'Antiquité, le vouvoiement était selon la hiérarchie des personnes. Donc, les personnes étant situées au-dessus de la hiérarchie devaient tutoyer les personnes qui étaient au même rang qu'elles et les gens en dessous devaient les vouvoyer par signe de respect. Nous pouvons voir que dans les langues, le vouvoiement et le tutoiement n'est pas perçu de la même manière. Par exemple, en anglais, le « tu » et le « vous » est dit de la même façon avec le terme « you ». Et en espagnol, il y a un terme précis qui permet de montrer un vouvoiement et surtout beaucoup de respect envers une personne qui est « usted ». Maintenant, nos camarades sont allés faire un micro-trottoir en posant la question « que pensez-vous du tutoiement et du vouvoiement ?» et nous vous montrons leur réponse tout de suite.
Petite question, qu'est-ce que vous pensez du tutoiement et vouvoiement dans le monde du travail ?
Alors, je suis pour le tutoiement. J'ai l'impression que ça enlève quand même des barrières. Ouais. Et le tutoiement n'empêche pas la politesse et le respect. Donc voilà. C'est d'ailleurs ce que je dis à mes jeunes, de me tutoyer, de m'appeler Hélène.
Très bien. Bah, merci beaucoup.
Merci. Je vous en prie. Bon courage à vous.
Au revoir. Dans votre travail, est-ce que vous préférez le tutoiement ou le vouvoiement ?
Alors nous, dans notre monde, c'est vrai qu'on se tutoie beaucoup plus facilement.
D'accord. Mm-hmm. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça ne vous dérange pas, du coup ?
Non, au contraire. Et même, je dirais que ça permet de casser des barrières.
Et du coup, c'est quoi leur travail ? Ah oui, quelle est votre fonction ?
Eh bien, on est artiste. Voilà.
Qu'est-ce que vous diriez du tutoiement et du vouvoiement, en général, dans la vie ?
Alors, moi, j'ai été éduqué d'une façon où je parle des enfants. Comme mon fils, il me vouvoie. Nous voyons nos aînés. Mais entre vous, par exemple, et moi, ça ne me dérange pas que vous me tutoyez ou que... Non, je n'ai aucun souci avec ça, au fait. Au travail, je n'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, le directeur, mon directeur, je préfère qu'on se vouvoie.
Parce que pour vous, ça ramène un peu à la notion de respect, d'hierarchie.
Effectivement, il faut, moi, pour moi, le directeur, il faut qu'il y ait une petite barrière entre lui et moi. Donc, on se vouvoie. Mais s'il dit qu'il préfère qu'on se tutoie, je le tutoie. Mais en premier, moi, je le vouvoie. S'il m'invite à le tutoyer, ok, mais j'aimerais quand même qu'il y ait une petite barrière entre nous. Mais dans la vie courante, les collègues là, de la rue, ça ne me dérange pas qu'on me tutoie. Mais les plus jeunes, par exemple mon fils à la maison, il nous vouvoie.
Du coup, c'est culturel ?
Plutôt éducatif, je dirais.
Qu'est-ce que vous pensez du tutoiement et du vouvoiement ?
C'est quelque chose qui est à définir auprès de avec qui on parle, mais... Je trouve ça bien de... Enfin, ça peut apporter une certaine valeur en fonction de comment on l'emploie. Et donc, ça peut être bien de définir avec la personne qu'est-ce qu'on fait et puis l'utiliser de la bonne façon.
D'accord. Et vous, instinctivement, vous vouvoyez les gens ou vous êtes plutôt dans le tutoiement ?
Non, je suis dans le vouvoiement. Et si jamais je vois que... Ou à la demande, je passe au tutoiement, mais plutôt le vouvoiement.
Ok, d'accord. Et si, par exemple, quelqu'un vous aborde et que direct, il vous tutoie, qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'il y a une proximité qui m'a imposé et ça me dérange un peu.
Qu'est-ce que vous pensez du tutoiement et du vouvoiement en règle générale ?
Alors moi, ma génération, le tutoiement, j'ai eu du mal. Mais là, vous êtes des jeunes, donc vous pourriez être mes enfants, voire mes petits-enfants. Donc je tutoie plus facilement, voilà. D'accord. Mais par politesse, au départ, je vais vouvoyer, voilà. C'est une question de politesse aussi, de vouvoyer d'abord, et après si les gens vous disent « vous pouvez me tutoyer, tu peux me tutoyer ». Bon, il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, où j'ai plus de mal. Mais ça, pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Mais le tutoiement, je trouve que c'est sympathique, ça met un peu en confiance, ça met... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est bien. Après, vous voyez ses patrons, oui, il faut. Voilà. Il y a une hiérarchie, comme on dit, à respecter. Et puis après, quand on rencontre des gens, j'habite dans un bâtiment entre voisins, il y en a que je tutoie, il y en a d'autres. Et quand je vois que l'autre personne a du mal à me tutoyer, je continue à vous voyer, quoi, par respect pour cette personne.
Nous venons d'écouter des interviews sous forme de micro-trottoirs réalisées par le groupe des micro-trotteuses. Nous sommes toujours en compagnie de Marion Léotouin, qui est journaliste pour le média social, que nous allons interviewer au sujet du tutoiement et du vouvoiement dans le milieu professionnel. Bonjour Marion.
Bon, rebonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Est-ce que je peux me présenter ?
Oui.
Oui, donc je suis journaliste spécialisée dans l'action sociale depuis de nombreuses années et je suis désormais rédactrice en chef en charge des longs formats pour un journal en ligne qui s'appelle Le Média Social.
Très bien, merci.
On vous a aperçu dans un podcast où vous interviewez Justine Pivert, qui est une assistante de service social, et nous aimerions savoir comment vous préparez vos interviews.
Alors, pour le podcast, c'est particulier puisque pour que l'enregistrement se fasse de manière assez efficace. Et comme à chaque fois qu'on prépare un petit épisode, il y a vraiment un thème particulier, je prends beaucoup de temps pour préparer. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez écouté, c'était Justine, on avait discuté au téléphone ensemble bien une heure avant sans que j'enregistre, pour qu'elle me raconte son parcours, ce qui avait été important dans sa formation. En l'occurrence, elle racontait son expérience de formation d'assistante de service social. Et ça me permet, moi, de pouvoir repérer dans ce qu'elle me raconte les éléments que je vais avoir envie de mettre en avant dans le podcast final. Et après, une fois qu'on est en enregistrement officiel, je lui repose les questions de la manière la plus naturelle possible et pour qu'on arrive vraiment à ne retenir que les éléments un peu importants dans le discours. Donc oui, il y a une grosse préparation quand même avant.
Très bien, merci. Et par rapport à la préparation, vous avez une équipe qui gère derrière, c'est tout un collectif du coup autour de vous ?
Alors pas du tout. Non, je gère ça toute seule. Vraiment, on est une toute petite équipe aux médias sociaux. Le podcast, c'était un projet que j'ai voulu lancer moi. Enfin, on était plusieurs, mais c'est moi qui en ai pris la responsabilité. Et je fais tout toute seule. Je fais la préparation, je fais l'interview, je fais le montage. Je fais la mise en ligne. Je fais tout toute seule.
D'accord, très bien. Et est-ce que vous êtes formée toute seule sur le tas ou est-ce que vous avez une formation
J'ai eu une petite formation qui m'a permis d'avoir les grands principes du podcast. Et ensuite, je me suis auto-formée au logiciel que j'utilise. Et voilà, je continue un peu. J'écoute en fait énormément de podcasts, ce qui me permet de m'améliorer. Mais j'aimerais beaucoup faire une longue formation au podcast.
D'accord, très bien, merci. Et juste pour rebondir sur le fait que du coup vous travaillez pour le média social, est-ce que vous avez, en tant que journaliste, vous avez toujours voulu travailler dans le milieu social ou est-ce que, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui s'intéressent à la politique, est-ce que ça vous a intéressé ?
Alors la politique, j'ai jamais voulu travailler, en tout cas sur la politique, sur le milieu politique, pas du tout. Quand j'ai commencé, moi je voulais travailler vraiment au tout début. Ce qui me faisait envie, c'était de travailler dans le cinéma, ce que je n'ai pas fait du tout. Enfin, j'ai fait un stage, mais voilà. Et en fait, assez vite, je me suis orientée vers le travail social, un peu par hasard, au hasard des propositions de collaboration. Quand on démarre, on a des petites piges un peu partout, enfin, il faut un peu bidouiller. Mais en fait, je pense que c'était pas un hasard, parce que je connaissais bien. Mon père était psychologue, ma mère était assistante de service social. Et du coup, j'ai un peu grandi dans cet univers-là. Et en fait, assez naturellement, j'étais à l'aise, en fait. Et je connaissais un peu les bases. Et puis, ça m'intéresse beaucoup. Et ça m'intéresse toujours beaucoup, alors que ça fait très longtemps.
D'accord. Très bien, merci. Et juste, question peut-être un petit peu plus personnelle, vous me direz si ça vous dérange. Comment vous coupez votre vie professionnelle et personnelle ? Parce que, en fait, en tant que journaliste, vous êtes sûrement amené à beaucoup voyager ?
Alors, plus maintenant, moi.
D'accord.
En fait, à la base, effectivement, quand j'étais il y a quelques années, pendant quelques années, j'ai beaucoup écrit, donc j'ai beaucoup fait de reportages. Donc, j'allais rencontrer les travailleurs sociaux dans les structures, dans tout un tas de structures, et c'était super. Et là, je passais beaucoup de temps dans des avions et dans des trains, en France, seulement, parce que c'était vraiment, on est sur le plan national, là, sur le travail social. Et puis maintenant, au fur et à mesure des années, j'ai évolué. Maintenant, comme je suis plus en position de responsabilité, en fait, j'ai une équipe de journalistes qui sont un peu partout en France, auxquels je commande des sujets, et moi, je suis plus en charge de les relire, de les orienter, de les... Voilà. Donc, ce qui n'empêche pas qu'il y a des compromis à faire sur la vie pro et perso, mais il y a beaucoup moins de déplacements. Alors après, je travaille à Paris quand même, hein. Donc il y a quand même un sujet. Je fais comme je peux.
Très bien, merci.
Et quand vous dites que vous restez en France, vous n'avez jamais eu l'idée ou peut-être la possibilité d'aller à travers le monde et peut-être de découvrir d'autres manières dans d'autres pays, comment c'est fait ?
Sur le travail social ?
Oui.
Alors, j'aurais beaucoup aimé faire ça. On l'a fait, en fait, mais sans se déplacer, parce qu'en fait, en presse, on a quand même des moyens, il faut savoir, très limités. Hein. On n'a pas des budgets énormes, pour, à part dans des énormes journaux. Hein. Je veux dire, au Monde, ils ont des correspondants partout. Ils partent en reportage, en grand reportage. Nous, non. Ça nous est arrivé qu'on ait des opportunités de partir, peut-être en Outre-mer, mais une ou deux fois. Mais on a fait plusieurs fois papiers sur le travail social dans d'autres pays. On a fait une série de portraits de travailleurs sociaux partout dans le monde. Donc on avait trouvé des contacts, on faisait des interviews par téléphone justement pour comparer. On a fait un sujet il n'y a pas longtemps pour savoir comment les travailleurs sociaux aux États-Unis s'accommodaient ou pas de l'arrivée de Trump au pouvoir et de tout ce que ça impliquait pour les droits des gens qui étaient accompagnés. Donc voilà, et d'ailleurs c'est rigolo, les Américains ils sont toujours hyper positifs. Travailleurs sociaux aussi. Donc ils sont là, non mais c'est bon en fait, on va combattre, on va y arriver. Voilà, donc c'est très très américain. Et voilà, on était allés, on a fait des papiers sur les travailleurs sociaux britanniques. Et c'est toujours super intéressant parce qu'effectivement, c'est pas forcément la même approche. Et je trouve que pour les travailleurs sociaux français, c'est une super bonne idée de s'intéresser à ce qui se fait à l'extérieur. Ouais.
Très bien. Merci. Et du coup, comme vous avez été amené à voyager, pardon, j'aimerais savoir quel pays vous a le plus plu professionnellement, je veux dire. Est-ce que
je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, puisque d'accord. Professionnellement, je n'ai pas voyagé. C'était d'accord. Vraiment des trajets en France.
D'accord.
Après, moi, j'ai voyagé un peu à titre personnel, mais du coup, là, je ne peux pas apporter de réponse sur cette question-là.
D'accord, pas de souci. Et juste une question pour avoir votre avis. On sait que du coup, notamment dans les pays en guerre, il y a beaucoup de journalistes qui peuvent être mis en difficulté. J'aimerais savoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous en pensez peut-être voilà.
Du fait de... Alors, mon avis, c'est-à-dire de la réalité du danger pour les journalistes ?
Oui, tout à fait.
Bah oui, mais là, de toute façon, je pense que d'autant plus là, cette année où il y a énormément de journalistes qui sont morts à Gaza, bon, ça on le sait, il y a de plus en plus de dangers pour les journalistes dans des pays où les droits de la presse ne sont plus du tout protégés. Donc effectivement, oui, c'est un vrai sujet, qui n'est pas drôle d'ailleurs.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors nous venons d'interviewer Marion Léotoin. Et à la suite de cette interview, deux autres invités nous ont rejoints autour pour un débat, pardon. Donc on est en présence d'Anne et Aminata. Est-ce que peut-être, les filles, vous pourrez vous présenter en quelques mots ?
Oui, bonjour, moi c'est Anne. Je suis en première année de formation pour devenir assistante de service social à la Croix-Rouge.
Bonjour, moi c'est Aminata. Je suis en première année d'assistante de service social.
Très bien, merci. Anne, j'aimerais commencer par toi. Une petite question. J'aimerais savoir, est-ce que tu as une anecdote marquante sur le tutoiement et le vouvoiement, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle ?
Oui, moi j'ai une petite anecdote. En fait, je suis maman. Et du coup, à la crèche, on rencontrait d'autres parents, souvent, voilà, quand on récupérait les enfants, quand on venait les déposer. Et en fait, il y a une maman qui m'a tout de suite tutoyée. Et en fait, je me suis dit, c'est assez rigolo en fait de rencontrer une personne pour la première fois, et puis de tout de suite la tutoyer. Et puis en fait, au fur et à mesure des conversations, j'ai compris qu'elle était anglaise d'origine. Et du coup, en fait, il y a ce truc-là, il n'y a pas de différence entre le tu et le vous. Et peu importe la personne qu'elle rencontre, en fait, elle la tutoie tout de suite. Voilà.
Très bien. Du coup, pour toi, de ce que tu viens de dire, en fait, ça t'a un peu dérangé au début, c'est ça, qu'elle te tutoie?
Eh bien, ça m'a dérangée, oui et non, parce qu'en fait, je me suis tout de suite dit, elle est très cool, en fait, comme nana, et du coup, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas, allez, on y va, on se tutoie, voilà, puis... Enfin, et après, je voyais qu'elle faisait ça avec tout le monde, et du coup, je me suis dit, bah, elle est vraiment cool, elle a la parole facile, elle va facilement vers les gens, et tout de suite, elle les tutoie, et même les gens la tutoient, et du coup, il n'y a pas de... Enfin, je trouve que, ouais, ça a cassé tout de suite des barrières, quoi.
Ok. Et selon toi, ce serait dû, du coup, tout ce qui est contexte, voilà, tout ce qui est culturel, mais sur le coup... tu aurais pu lui dire « Oui, excuse-moi, le tutoiement, ça me dérange. » Et comment tu penses qu'elle aurait réagi, elle qui n'est pas française ?
Je pense pas que je serais allée lui dire « Non, mais faut me vouvoyer. » Enfin, c'est pas, en fait, c'est pas du tout comment je suis, c'est pas mon caractère. Mais, enfin, je pense que... Non, ça m'a pas du tout heurté. Enfin, vraiment, parce que moi, je suis cool aussi, je pense, en vrai. Et du coup, non, ça m'a pas heurté. Et je me suis dit, on y va comme ça. Puis la relation, elle s'est construite comme ça. Et puis, ça m'a pas posé de problème.
Très bien, merci.
Merci beaucoup, Anne. Alors maintenant, bonjour Aminata.
Bonjour, Lina.
Nous savons que tu fais partie d'une association. Tu es bénévole dans une association qui s'appelle La Table de Jeanne-Marie. Tu pourrais peut-être nous la présenter aussi en quelques mots.
Alors, l'association Table de Jeanne-Marie, en fait, propose un plat chaud tous les jours aux personnes qui sont en précarité extrême. Et en fait, il y a deux associations. Il y a le réseau d'éducation sans frontières qui s'occupe de les accompagner pour tout ce qui est démarche administrative et les soutenir dans tout ce qui, voilà, par rapport à tout ce qui est démarche administrative. Ouais.
D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que, selon toi, le vouvoiement, il peut freiner la proximité que tu cherches à avoir avec les personnes qui se rendent à cette association ?
Pour tout te dire, écoute, moi, au premier abord, au premier contact, du coup, je vouvoie la personne. Et lorsque la personne me tutoie, du coup, il y a un climat de confiance qui se crée. Et finalement... ça se fait naturellement, spontanément, en fait.
D'accord. Merci beaucoup, Aminata.
Je t'en prie.
Alors, une question pour Marion Léontoin, du coup, pour faire le parallèle, pardon, parce que nous sommes étudiantes encore, et vous êtes vraiment dans le milieu professionnel. J'aimerais savoir comment vous... par rapport à la proximité, comment vous faites pour tutoyer ou vous voyez quelqu'un ? Est-ce que vous rentrez directement dans le tutoiement ? Vous demandez à la personne d'abord et vous voyez après ? Ou vous attendez que le lien se crée peut-être avant de pouvoir tutoyer ?
Comment je procède ? Dans le cadre de mon métier, en fait, on va à la rencontre des gens. Souvent, on les voit finalement quand on est en reportage, on passe qu'une journée avec eux. Vous verrez quand vous serez dans des structures qui, dans la journaliste, viendront vous voir, ça va assez vite. Du coup, évidemment, la création du lien, elle est quand même elle est rapide. Enfin, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, évidemment, jamais j'arrive en tutoyant des professionnels sur les structures. Alors, c'est arrivé finalement au fil d'une journée, en revanche, quand même, que très vite, les travailleurs sociaux me tutoient. Du coup, je les tutoie. Je fais attention avec les personnes que vous accompagnez, de vous voyez tout le monde évidemment. Les enfants, bon, les enfants, je les tutoie quand ils sont petits. Quand on a affaire à des jeunes adultes où on est un peu entre deux, là, je vais demander. Pour les podcasts, souvent, comme on est sur un exercice où je demande aux gens de raconter beaucoup de choses quand même, de leur parcours, etc., assez vite, généralement, on se tutoie. Mais c'est on se tutoie, c'est-à-dire que c'est pas moi qui les tutoie et eux qui me voient. Et ça permet quand même d'aller vers des choses un peu plus personnelles, de créer un espace aussi. Voilà, il faut qu'ils soient dans le podcast, qu'ils soient un peu à l'aise. C'est un peu stressant. Hein. Justine, par exemple, que vous avez écoutée au début, a été hyper stressée. On a tous derrière un micro, là, vous le voyez. Ça met un petit coup de pression, quoi. Donc, le tutoiement, je pense que ça peut quand même être un outil de mise en confiance, si tout le monde est d'accord, hein, évidemment, assez utile pour que les personnes puissent se détendre et parler des choses dont elles souhaitent parler. Mais sinon, effectivement, je respecte les usages, en fait.
D'accord, très bien, merci. Et est-ce que, du coup, ce serait en fonction des milieux professionnels? Parce que, du coup, comme vous avez dit, dans le social, on a plus tendance à tutoyer. Et est-ce que, par exemple, en politique ou dans le milieu juridique, du coup?
Alors, je pense que dans le milieu juridique, on vous voit plus facile. Enfin, c'est plus la convention. C'est vrai qu'il y a des conventions. Par exemple, dans la presse, on se tutoie beaucoup. On tutoie nos chefs. Dans le social, je pense que c'est aussi le cas quand même bien souvent. En politique, je pense qu'il vaut mieux ne pas tutoyer un homme politique quand on est journaliste. Mais bon, c'est pas très bon signe. Donc je ne sais pas trop, mais je pense que voilà, c'est vraiment, effectivement, hein, ça donne un indice sur la proximité qu'on veut s'autoriser et qu'on veut autoriser à l'autre. Donc moi, par exemple, un responsable, ma responsable directe, je la tutoie, mais le directeur de l'entreprise, je n'ai aucune envie de le tutoyer, ni qu'il me tutoie. Je trouve que voilà, et je pense que dans tous les milieux, c'est valable, mais c'est vrai qu'il y a des codes culturels qui ne sont pas les mêmes, et peut-être dans le milieu juridique, on vous voit plus, et peut-être dans le travail social, on est plus dans un lien comme ça, de proximité facilement, aussi parce que bah, c'est de l'humain aussi quand même.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et juste une petite dernière question. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que vous étiez allé peut-être trop vite dans la proximité avec la personne, en tutoyant peut-être trop vite ou...
C'est une super bonne question à laquelle je n'ai pas du tout réfléchi. Ça a peut-être dû m'arriver, oui. Je pense que ça a dû m'arriver en reportage. Je pense que ça m'est arrivé une ou deux fois de regretter d'avoir tutoyé une jeune personne. En fait, qui était plus jeune que moi, mais qui n'était plus non plus un enfant. Et alors, je ne sais pas si j'ai eu raison de m'en vouloir, mais je me suis posé la question de est-ce que c'était adapté ? Et est-ce que finalement, je n'avais pas pris trop de liberté en me disant, bon, voilà, c'est un jeune, quoi. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Ça a pu m'arriver, ouais.
Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Du coup, nous allons finir sur cette touche et nous repartons sur Suavemente.
Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave. Yo quiero sentir tus labios suave. Besándome otra vez. Suave. Besa, besa, suave. Bésame un poquito.
trato de escaparme.
Suave.
Y me siento preso.
Suave.
Besa, besa,
suave.
Besa un poquito.
Suave.
Besa, 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 besa.
Suave.
Bésame otro ratito.
Suave.
Dámelo.
C'est Samuel, on est toujours sur Radio Béton avec les voix du social. Bienvenue dans Harcèle-moi si tu peux. Pour rappel, nous sommes des étudiants qui avons été invités dans cette semaine parcours pour découvrir la radio. Je suis en excellente compagnie parce que je suis accompagné d'Amandine. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Ainsi que de Maxime.
Bonjour.
De Margot.
Bonjour.
Et de Marie-Lou.
Bonjour.
Donc on est ici pour aborder le sujet du harcèlement. On va avoir trois témoignages ainsi qu'un retour sur les diverses statistiques et chiffres qu'on a autour de ce sujet. Donc nous allons tout de suite commencer par le témoignage d'Amandine, juste à côté de moi.
Bonjour, je m'appelle Amandine, je vais vous parler du harcèlement que j'ai eu en fait quand j'étais au collège et au lycée. Le harcèlement est venu par période, j'ai eu beaucoup de moqueries, et beaucoup de moqueries que ce soit pour mon style vestimentaire car j'étais un garçon manqué. Également j'avais une personnalité très effacée, du coup je me suis fait harceler aussi parce que parce que j'arrivais pas à me défendre. Et je peux rajouter à cela aussi que j'ai eu l'humiliation, parce qu'en cinquième, je me suis fait baisser mon pantalon devant tout le monde, et que les amies qui étaient avec moi, en fait, elles ont totalement fui au niveau de la scène lorsque ça s'est passé. Et du coup, en fait, je me suis tapé la grosse honte devant tout le monde, même dans le réfectoire et tout. Donc, l'établissement, en fait, n'a pas agi alors que j'avais besoin d'aide. Donc, voilà.
Ok. On va passer au deuxième témoignage, celui de Maxime. Bonjour.
Bonjour. Alors oui, moi c'est du harcèlement et plus précisément du harcèlement homophobe que j'ai subi donc quand j'étais au collège. Et moi c'est venu d'un coup au collège, à partir de la cinquième en fait, c'était un élève précisément. Et donc du coup, voilà, c'était souvent des insultes homophobes et... Et à des fois, il me tenait la jambe. Et si vous voyez qu'il y avait une réaction, ça veut dire que j'étais homosexuel, donc il me frappait. Enfin voilà, c'était physique. Et à des fois, c'était aussi mentalement. C'est-à-dire avec les insultes et voilà.
On reviendra par la suite sur les divers impacts que ça a pu avoir sur vous tous. On va juste finir avec le dernier témoignage, celui de Margot.
Moi, c'était du cyberharcèlement. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a eu pas mal d'impact. C'était des menaces à répétition assez graves. En fait, c'était quelqu'un que je connaissais qui était caché derrière un faux compte.
D'accord. Donc, on pourra aussi revenir sur le cyberharcèlement, qui est quand même une question très importante parce qu'elle est très actuelle et avec tous les réseaux qui se développent. Et la facilité qu'on peut avoir à créer justement ces faux comptes, c'est de plus en plus facile. de mettre en place ce genre de harcèlement de masse. Donc, ma première question, qui est très importante, c'est, je vous la pose à tous et à toutes, est-ce que aujourd'hui vous voyez encore des impacts qu'ont pu avoir en fait ce harcèlement que vous avez pu subir, surtout pendant la période scolaire, comme beaucoup? Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous voyez que ça a changé des choses dans votre personnalité, dans votre façon de vivre ou d'écouter les autres?
Alors oui, pour ma part, j'ai de l'anxiété et aussi une phobie sociale. Et voilà, donc dans la vie de tous les jours, c'est pas facile parce que du coup, quand il y a beaucoup de monde, en fait, j'ai beaucoup de mal... En fait, ça me stresse et donc je deviens très anxieux, et donc je pars très rapidement. Et donc voilà, c'est pas facile. C'est pas facile quand, par exemple, on prend les transports et choses comme ça.
Merci de partager ça avec nous, parce que c'est vrai que d'un point de vue psychologique, on peut constater, on pourra voir ça avec les chiffres que nous avons tout à l'heure, aussi une augmentation aussi de l'ouverture de la parole des jeunes vis-à-vis de leur santé mentale. Et ça, le harcèlement que beaucoup de personnes subissent constamment en cours, ça a changé beaucoup de façons de voir la vie de beaucoup de gens. Ou y compris, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole sur les impacts que ça a pu avoir?
Alors moi, dans mon cas, je sais que les conséquences ont eu un impact, je dirais, sur le court et moyen terme. Sur le court terme, on va dire, au niveau quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup d'anxiété. D'ailleurs, je vais rejoindre Maxime. Et ça a été compliqué parce que de me construire et de m'accepter en tant que femme, en fait. Même, je l'ai très mal vécu au niveau de l'isolement social. Et je me suis rendu compte, en fait, que finalement, j'avais pas beaucoup d'amis et que je pouvais compter pas forcément sur beaucoup de monde. Donc ça a été un peu compliqué pour moi. Et a posteriori, en fait, sur une évolution plus longue, on va dire, je me rends compte, en fait, que le collège, que ce soit collège ou lycée, c'est une période que j'ai très mal vécu. Et que je comprends maintenant, en étant adulte, que certaines choses, en fait, qui se sont passées quand j'étais jeune, en fait, ont sûrement eu des plus grosses conséquences maintenant sur un impact. Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage.
Personnellement, j'ai fait une grosse dépression l'année qui a suivi et ça n'a pas été facile de gérer les conséquences que ça a eu. Et pareil, du coup, beaucoup d'anxiété comme Maxime et Amandine, et c'est un truc dont je ne me suis pas débarrassée.
Je voulais aussi vous poser une question sur la place qu'a pu avoir le système scolaire et surtout l'administration, les surveillants, les CPE principaux, etc. Est-ce que vous vous êtes senti aidé par cette administration-là ou non ?
Moi, personnellement, c'était en dehors de l'école. Donc, moi, ça n'a pas eu d'impact en tant que tel au collège. Par contre, du coup, j'ai porté plainte et ça a été classé sans suite. En fait, ça n'a pas été pris en compte. Et l'adjudant à laquelle j'ai fait face m'a... clairement dit que c'était de ma faute et que j'aurais juste pas dû répondre aux menaces dont j'ai été victime.
D'accord, donc vous avez eu affaire carrément à l'administration judiciaire dans votre cas. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer ?
Moi, pour mon cas, en fait, j'avais du mal à en parler. Et du coup, en fait, par exemple, quand je me prenais une remarque homophobe, dans la classe, il y avait quand même le prof qui disait quelque chose. Il faisait la remarque à l'élève qui l'avait faite. Donc voilà, je me sentais un peu soutenu dans ça. Mais derrière, on n'allait pas le punir, en fait. Il n'y avait pas de sanction, il n'allait pas passer en conseil de discipline, ni rien. Enfin voilà, quoi.
Moi, dans mon cas, en fait, je dirais que l'école, en fait, c'est-à-dire le collège, n'a rien fait. Ça veut dire, à un moment donné où j'ai expliqué que j'avais du harcèlement et que je voulais être aidée, en fait, parce que j'arrivais pas à gérer, je sais que j'ai été convoquée avec la personne qui m'a harcelée. Et je me souviens que la CPE ou un surveillant, en fait, nous a fait un peu la leçon à tous les deux. ça a fait doucement rire et je crois qu'on a copié des lignes ensemble alors que j'étais un peu la victime. Donc ça m'a fait un peu rire sur le coup. Maintenant j'en rigole. Et je dirais aussi que la difficulté, c'est que moi, j'avais honte et peur. Donc mes parents ne sont même pas au courant que j'ai eu du harcèlement quand j'étais plus jeune parce que j'avais peur d'être jugée et j'avais toujours pas confiance en moi. Et aussi, l'environnement familial fait que j'ai pas eu l'occasion.
Donc, merci beaucoup pour ces témoignages qui n'ont pas dû être faciles à faire. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu dire. On va enchaîner sur une revue un peu plus chiffrée et statistique de tout ce qui se passe en France vis-à-vis du harcèlement, du cyberharcèlement chez les jeunes.
Bonjour. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un article qui a été paru par le ministère de l'Éducation nationale. Qui est sur la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Donc les résultats d'une grille d'auto-évaluation faite par les élèves, qui a été parue en juillet 2025. Donc, d'après ces grilles, 3% des écoliers, 5% des collégiens et 3% des lycéens ont subi ce type de harcèlement. Ensuite, un autre article de l'Observatoire des inégalités, qui est un observatoire de recherche sur les inégalités, qui a parlé de l'homophobie qui reste présente dans la société française. Donc avec l'association SOS Homophobie, l'association a reçu 1571 témoignages de personnes victimes d'insultes, de rejets et de discrimination du fait de leur orientation sexuelle ou de leur transidentité au cours de l'année 2024. Donc il a été publié le 1er juin 2025. Et enfin, le ministère de l'Éducation nationale a communiqué sur les premiers résultats statistiques de l'enquête sur le harcèlement en 2023. Donc cette enquête de statistiques a été créée pour produire des indicateurs nationaux sur le harcèlement scolaire. Il y a eu 17 400 questionnaires qui ont été exploités. Et ça montre que dès l'école, il y a des personnes qui racontent des choses très dur pour les enfants, qui est par exemple de 17%, mais également pour les personnes au collège et au lycée, où ça peut être de se moquer, de s'insulter ou de faire courir des rumeurs. Merci d'avoir écouté ceci.
Merci, ces chiffres sont assez utiles parce que parler de 5% de collégiens, et en 2025, on recense quand même plus de 3 millions de collégiens. Donc 5%, ça peut paraître bas. Sur 3,3 millions de collégiens, ça représente quand même une part assez importante de harcèlement subi, rien qu'à ce niveau-là de la scolarité, qui est en plus un moment important, puisque c'est le développement, ça va être le début de l'adolescence. C'est le moment où on va le plus changer, et l'un des moments où le harcèlement va avoir le plus d'impact sur la personnalité de quelqu'un. Pour tous les parents qui peuvent nous écouter, n'oubliez surtout pas d'essayer de parler en fait à vos enfants, d'essayer de voir comment ça se passe en cours, de toujours communiquer avec eux, d'essayer de leur demander comment s'est passée la journée, sans non plus forcer, parce qu'ils ont quand même tout le monde à sa vie privée. Mais voilà, ne jamais oublier la communication, parce que vous êtes une parcelle quand même assez importante pour les jeunes. Aussi, donc, pour rappeler, sur Tours, on a deux associations d'accueil. On a d'abord l'association Stop Harcèlement Scolaire 37 à Jouer les Tours, qui peut être important, qui peut vous recevoir anonymement, qui voilà, ne va pas vous demander d'informations. Si vous êtes un jeune que vous n'osez pas parler à qui que ce soit, cette association peut vous accueillir. On a aussi le centre LGBTI de Touraine, qui se situe juste à côté de la faculté des Tanneurs, qui peut vous accueillir tout exactement comme la première, sans vous demander d'informations personnelles si vous avez subi de l'homophobie. L'État a aussi mis en place deux numéros. Tout d'abord, un pour le harcèlement à l'école, qui est le 30-20. N'oubliez pas ce numéro. Et un pour le cyberharcèlement, qui est le 30-18. Donc, ce sont deux numéros nationaux très importants. N'hésitez pas à aller les appeler et surtout, protégez-vous de tout cela. C'était un sujet quand même assez difficile. Je vous remercie encore d'avoir accepté d'en parler sur cette table. Merci beaucoup.
Ok, l'émission touche à sa fin. C'était Les Voix du Social sur Radio Béton. Et là, on voudrait vous faire part de toutes nos impressions sur cette semaine qu'on a passée ensemble.
Alors moi, je voulais remercier tous mes camarades de la promo pour cette super semaine qu'on a passée avec beaucoup d'émotions et très différentes les unes des autres. Et aussi les intervenants et les formateurs. Merci à tous.
Moi, j'ai découvert un truc cette semaine, les micro-trottoirs, quoi. Gros coup de cœur, aller interroger les gens dans la rue et tout. J'ai trouvé ça génial. Et puis, j'ai adoré tous les moments qu'on a passés ensemble. On a beaucoup mangé, mais c'était super. Ouais, c'était super.
Moi, je voulais vous faire part de mon impression sur cette semaine. J'ai passé un agréable moment avec vous. J'ai été méchante, j'ai apporté des viennoiseries tout le temps. Alors, vous m'en voudrez pas. Mais franchement, c'est un moment qui sera gravé dans ma mémoire pendant très, très, très longtemps. Merci à vous. Merci infiniment.
Alors, pour mon impression de cette semaine, je trouve que ça s'est très bien passé. On a appris beaucoup de choses, que ce soit sur la technique, les façons de faire, la manière de parler, de poser des questions. C'est vrai que au début, j'étais un peu sceptique, parce qu'en une semaine, on a appris beaucoup de choses, mais au final, on l'a fait. Et je remercie Arnaud et Élise qui sont venus cette semaine pour nous enseigner tout ça. Voilà, merci.
Alors moi, je voudrais remercier tous les intervenants qui nous ont aidés, qui nous ont appris beaucoup de choses. Merci aussi à tous les camarades. Le groupe était très bien et puis vous avez mis en confiance. J'étais très stressée et en fait, c'était très agréable. Et puis, merci à ma coéquipière.
Donc, comme mes camarades l'ont dit, tous vous remercier pour tout ce qu'on a pu faire cette semaine. Nos intervenants aussi qui nous ont appris énormément de choses. Je suis très content d'avoir pu découvrir ce média-là parce que j'avais jamais pu voir l'envers de ce décor et ça m'a limite donné envie d'en faire toute l'année. Et vous remercier d'avoir pu aussi aborder les sujets qu'on a abordés, celui que notre groupe a pu traiter. Ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de ça. Donc merci beaucoup et merci pour tous les moments et toute la nourriture apportée.
Et moi, je suis Élie, je me permets de prendre la parole. J'étais une des intervenantes avec Arnaud cette semaine. Et je voulais dire combien, en fait, en tout cas, moi, en tant qu'intervenante, ce sont des moments qui sont importants. C'est-à-dire que le fait d'être ensemble, de vous rencontrer et d'expérimenter des techniques de transmission, ça permet de s'enrichir aussi. Et c'est ça l'éducation populaire aussi. C'est comment on s'enrichit les uns les autres collectivement à partir des expériences et des compétences. Il n'y en a pas un qui est plus fort ou plus élevé parce qu'il a fait telle ou telle étude. Et c'est ce que permet l'expérience de terrain, notamment elle partage des savoirs. Et je voulais vous dire aussi combien... Quand on travaille dans l'associatif ou dans le secteur social ou dans le secteur culturel, c'est important des semaines comme ça et de rencontrer la future génération parce que ça donne de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont mobilisés à faire des métiers qui font du bien à la société, des métiers qui sont en rupture aujourd'hui, qui sont de moins en moins soutenus par les collectivités à tous les niveaux de l'État. Et pourtant, plus le temps passe et plus les gens sont en grande difficulté sociale, psychologique, physique, financière et de plus en plus à l'intérieur de classes sociales qui ne l'étaient pas avant. Donc ça, c'est un gros point. Moi, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'espoir et beaucoup d'émotion également. Merci à vous.
Donc moi, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée cette semaine, autant formateurs qu'intervenants, ainsi que mes camarades. Franchement, ça a été une super semaine. Et également, la radio, ce n'est pas seulement un moyen de s'exprimer, c'est aussi un moyen d'apprendre à aimer sa voix à travers la radio, de s'entendre. Ceux qui ne l'aiment pas forcément, faisaient un peu de radio et apprenez à l'imprégner et à vous aimer complètement.
On espère que vous avez aimé cette émission. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et pour finir, on voudrait remercier Marion Léotoin pour sa participation à l'émission. Arnaud, pour nous avoir apporté toutes tes connaissances et ton expertise technique sur la conception et le montage d'une émission. Élise, pour nous avoir prodigué de précieux conseils. Et enfin, nos deux formateurs, quand même, Anne et Jean-François, pour avoir préparé toute cette semaine en amont et nous avoir donné la possibilité de vivre un moment qui restera à jamais gravé dans notre mémoire.
Merci!
Bravo!